Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Premier dimanche de l'Avent, un temps de cheminement qui nous offre un horizon d'espérance. Lors de l'Angélus, le pape François a espéré la fin des conflits à travers le monde. Il a aussi prié pour les personnes malades du sida en cette journée mondiale qui leur est dédiée. Vêpres de l'Avent, samedi soir, le pape a demandé aux jeunes d'être protagonistes, défendre les valeurs chrétiennes, quitte à être à contre-courant dans un contexte socioculturel appesanti, dit-il, par la médiocrité et l'ennui. Rencontre entre le pape François et le Premier ministre israélien, construction de la crèche de Noël ou concert au Vatican. Nous reviendrons sur de nombreux événements prévus ce lundi au Vatican. Et puis enfin, l'invité de sœur Catherine Aubin est le bibliste Michel Proulx, le nouveau président de la conférence religieuse canadienne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Au premier jour du temps de l'Avent, nous redécouvrons la beauté d'être tous en chemin. C'est un pèlerinage universel vers une destination commune. Nous marchons vers la venue du Seigneur, c'est lui le guide et en même temps la destination du pèlerinage du peuple de Dieu. Ce dimanche, lors de l'Angélus et face à des fidèles venus nombreux, place Saint-Pierre en dépit du ciel gris, le pape a affirmé que l'Avent nous offre un horizon d'espoir fondé sur la parole de Dieu. François a espéré ainsi la fin des conflits à travers le monde, pariant sur l'espérance d'une paix possible. Le pape a notamment improvisé quelques paroles fortes autour d'un passage du livre du prophète Isaïe.
Spezzeranno le loro spade. Et ne faranno arati.
De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. François s'est exclamé, mais quand cela aura-t-il lieu? Quel beau jour ce sera lorsque les armes seront démontées pour être transformées en instruments de travail? Quel beau jour ce sera! Le pape François a conclu, c'est possible, parions sur l'espérance d'une paix possible. Le pape qui a également saisi l'occasion de l'Angélus et de la journée mondiale du sida pour exprimer la solidarité de l'Église, sa proximité aux personnes qui souffrent du virus, spécialement aux enfants. Cette proximité est très concrète, dit-il, en raison de l'engagement silencieux de nombreux missionnaires et de professionnels de santé, a poursuivi le pape. Prions pour eux tous et aussi pour les médecins et les chercheurs. Samedi soir, en la basilique Saint-Pierre, le pape a présidé l'office des vêpres du premier dimanche de l'Avent, un temps important qui ouvre donc l'année liturgique et prépare les catholiques à l'arrivée du Seigneur. Comme chaque année au Vatican, le pape était entouré ce samedi soir de milliers d'étudiants des universités de Rome et son homélie leur était d'ailleurs entièrement consacrée. Antonino Gallofaro.
Ne regardez pas la vie du balcon. Le pape leur a demandé de démontrer leur force intérieure et une audace évangélique pour aller de l'avant afin d'être les protagonistes des événements contemporains. Dieu est à vos côtés, leur a assuré le pape, pour que vous alliez défendre la vie, le développement de tous, que vous luttiez pour la dignité des personnes, contre la pauvreté. Il faut relever les défis, y faire face en cultivant des projets ambitieux qui dépassent l'ordinaire. Dans un contexte appesanti par la médiocrité et par l'ennui, le pape leur a demandé de ne pas se faire contaminer par la monotonie du quotidien, de ne pas se faire emprisonner dans une pensée faible et uniforme. Au contraire, il vous faut conserver l'enthousiasme de la jeunesse et, dans un monde globalisé, œuvrer au respect de l'unité dans la diversité. Car pour le pape, la pluralité des pensées et des individus reflète la sagesse multiforme de Dieu. Le pape encourage les jeunes à vivre de manière cohérente avec l'évangile et peu importe si cela veut dire aller à contre-courant.
Et lors de ses vêpres, samedi soir, l'icône Marie Trône de la Sagesse, conçue à la demande de Jean-Paul II pour le jubilé de l'an 2000 et dédiée au monde universitaire, a été remise au monde étudiant français par une délégation brésilienne. Les étudiants français du réseau Ecclesia Campus ont pour mission de faire circuler cette icône pendant un an dans les aumôneries, universités, foyers, au groupe de prière dédié aux jeunes. Ce lundi au Vatican, journée chargée d'abord pour les ouvriers du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican qui commenceront la construction de la structure devant abriter la crèche de Noël au cœur de la place Saint-Pierre. Cette année, les santons géants proviendront de la ville de Naples, une ville du sud de l'Italie, particulièrement connue pour ses crèches. Celle du Vatican est d'ordinaire inaugurée au soir du 24 décembre, un peu avant la messe de la nuit de Noël. Et le pape s'y rend plus tard en principe le 31 décembre soir, au terme de l'office des Vêpres et du Tédéum, célébré dans la basilique Saint-Pierre en remerciement de l'année écoulée. Et ce lundi plus politique, le pape François doit recevoir le Premier ministre israélien dans la matinée. Benjamin Netanyahou commencera d'ailleurs sa visite de 2 jours en Italie en se rendant auprès du pape. Les deux hommes parleront certainement des difficiles négociations de paix en cours au Proche-Orient et peut-être des biens de l'Église catholique en Terre Sainte. Une commission mixte a entamé en 1999 des discussions portant sur les propriétés de l'Église sur place, sur les exonérations fiscales concernant le revenu des activités commerciales des communautés chrétiennes, ainsi que sur le statut juridique de l'Église catholique. Benjamin Netanyahou pourrait enfin inviter le pape en Israël. François, qui souhaite se rendre en Terre Sainte, a déjà été invité à se rendre sur les lieux saints du christianisme par le président israélien Shimon Peres, ainsi que par le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas. En France, le président François Hollande a remis ce samedi la médaille de la famille à une trentaine de personnes. La plupart, rapporte le journal La Croix, étaient des mères de famille nombreuses. Mais nouveauté cette année, le chef de l'État a aussi récompensé des responsables associatifs au titre des services exceptionnels rendus à la famille. Des responsables, par exemple, de crèches accueillant des enfants handicapés ou bien axés sur l'aide aux mères isolées. Dans son discours, François Hollande n'a pas fait samedi d'annonce nouvelle. Il s'est voulu rassurant. La politique familiale est une priorité du gouvernement. Pourtant, le contexte est tendu après la baisse du plafond du quotient familial, mesures fiscales, mais aussi loi Taubira sur le mariage homosexuel. On en parle avec Joël Benoît d'Honorio, président de la Confédération des juristes catholiques de France.
Nous nous trouvons actuellement dans une situation législative totalement incohérente. La loi Taubira est tout à fait exorbitante du droit commun. À la limite, on se demande quelle valeur elle a au juste, dans la mesure où, d'une part, le Parlement est intervenu pour légiférer dans un domaine qui n'est pas de sa compétence sur la substance même du mariage. Ce n'est pas au Parlement à dire qui peut se marier indépendamment de l'altérité sexuelle. Et d'ailleurs, nous avons soulevé le fait que le mot même « mariage » qui a été utilisé constitue un rapte de vocabulaire, un rapte sémantique, dans la mesure où « mariage » a toujours signifié l'union d'un homme et d'une femme. Il y a en France un principe dit constitutionnel de l'intelligibilité de la loi qui manifestement n'est pas rempli ici.
Mais alors aujourd'hui, quelles sont concrètement vos possibilités? Est-ce que c'est faire passer des propositions de loi par des parlementaires? Est-ce que c'est continuer à manifester dans la rue? Est-ce que c'est déposer des recours juridiques? Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour faire entendre votre position?
On peut toujours contester une loi même en vigueur quand on n'est pas d'accord et faire en sorte d'en souligner les lacunes et de demander ou son abrogation, ou son amélioration, ou sa clarification. Les contestations aussi, non pas de la loi devant le Conseil constitutionnel, puisque l'affaire a été réglée de manière négative, mais des décrets d'application devant le Conseil d'État. Il y en a certains qui sont en cours d'examen maintenant. Il y a ensuite intervenir auprès des élus nationaux, parce que ce sont eux qui font la loi et qui peuvent la refaire ou la défaire. Intervention aussi auprès des élus locaux, puisque ce sont eux qui doivent appliquer la loi. Et quand le Conseil constitutionnel a refusé la liberté de conscience aux maires et aux adjoints et aux conseillers municipaux, là aussi, il faut dire que ce n'est pas en agissant en argument d'autorité qu'on a réglé la question. Parce que le problème reste toujours pendant. Il y a toujours des problèmes de conscience et on ne peut tout de même pas demander à des maires, par exemple catholiques, de démissionner uniquement sur un critère religieux parce qu'ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas appliquer une loi qui est exorbitante du droit commun. Nous ne sommes pas là pour être cantonnés dans la sacristie. Notre champ d'activité est essentiellement le champ public, c'est-à-dire notamment dans la vie politique. Tout citoyen, quelle que soit sa confession, son ton de confession, a sa place dans la vie politique, mais les catholiques pas moins que les autres. Pas plus, mais certainement pas moins. Donc eux aussi ont le droit de faire entendre leur point de vue et d'élever leurs objections, surtout quand ces objections sont d'ordre moral, d'ordre éthique, d'ordre biologique ou anthropologique, parce qu'ils concernent tout le monde. Ce ne sont pas des positions spécifiquement religieuses en la matière, ce sont des positions qui relèvent d'une civilisation et d'une culture.
Et l'invité de ce dimanche est le nouveau président de la conférence religieuse canadienne, le bibliste Michel Proulx. Interrogé par Catherine Aubin, il nous présente ce que c'est que cette immense organisation qui représente 200 communautés religieuses au Canada. Michel Proulx nous explique en quoi consiste la particularité de cette conférence des religieux canadiens, marquée par la grâce d'être mixte et bilingue, ainsi que ses défis et ses perspectives. Pour lui, la vie religieuse apostolique ressemble au déluge vécu par Noé dans la Bible. L'entretien se termine par son appréciation sur le prophétisme des femmes dans la vie religieuse.
Michel Proulx, frère Michel Proulx, vous êtes prémontré, vous êtes moine, moine apostolique, et vous êtes aussi président de la conférence religieuse canadienne. C'est quoi une conférence de religieux canadiens?
Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est le regroupement, l'association de tous les supérieurs majeurs du Canada. Au Canada, nous avons la grâce et le défi que cette conférence soit mixte, c'est-à-dire que ça rassemble les supérieurs de communautés religieuses masculines et les communautés religieuses féminines. Et aussi, autre grâce et autre défi, c'est d'être bilingue, parce que le Canada a des gens, des anglophones, des francophones, donc nous avons des communautés religieuses appartenant aux deux univers culturels et linguistiques. Nous sommes, si on compte la population religieuse, c'est 16 000 religieux et religieuses, grosso modo, pour une répartition en 200 congrégations.
Alors, le Canada, c'était et c'est encore un pays extrêmement imprégné de chrétienté. Qu'en est-il aujourd'hui?
C'est pas tout le Canada qui est imprégné de catholicisme, c'est surtout la partie francophone, parce que une bonne partie du Canada est constituée d'anglicans, de personnes appartenant à diverses églises protestantes, surtout là chez les anglophones. La société, comme l'ensemble des pays industrialisés, s'est beaucoup sécularisée et ça continue. Donc, actuellement, la présence religieuse est vraiment en baisse et les religieux et les religieuses ont vraiment à être des témoins d'espérance là-dedans et ils ont à vivre leur vocation dans un contexte qui n'est pas facile. Dans un contexte d'une culture hypersexualisée, vivre un engagement au célibat, à la chasteté, c'est un grand défi. Et je dirais aussi la question de l'engagement à long terme, le don de toute une vie, presque devenu quelque chose d'héroïque. Dans ce sens-là, nos religieux et religieuses du Canada ont quelque chose de vraiment prophétique, je crois, à apporter, hein, plus que jamais dans ce genre de société, dans ce genre de culture où être chrétien ne va plus de soi.
La vie religieuse a quelque chose de prophétique et en même temps, elle s'écroule. À quelle figure biblique ressemble-t-elle, cette vie religieuse apostolique?
Bien, c'est intéressant la façon dont vous apportez la question, parce que justement, dernièrement, j'écrivais un article que j'adressais à tous nos membres, où est-ce que je compare un petit peu la situation de la vie religieuse à la figure de Noé dans le déluge, parce que Noé a vécu quelque chose de difficile. Il a vu disparaître toutes les institutions de la société à laquelle il appartenait. Tout a été emporté par le déluge et il demeurait seul avec quelques membres de sa famille, des représentants en nombre vraiment limité de chacune des espèces animales. Donc, il avait à prendre soin de la vie qui restait et à faire preuve de beaucoup de patience, d'espérance. On sait comment il avait hâte que le déluge finisse. Là, il envoyait des oiseaux pour voir s'il pouvait enfin sortir de l'arche. Eh bien, je dirais que les religieux sont un petit peu comme ça, les religieuses au Canada présentement, parce que les écoles que nous avons fondées, les hôpitaux que nous avons fondés s'écroulent. 50 % de nos membres ont plus de 80 ans. C'est une situation vraiment en transformation. Hein. C'est comme si la culture avait noyé ce que l'on vivait. Et ça demande aux religieuses de prendre grand soin de la vie qui demeure, parce que je crois qu'il va y avoir un après-déluge. Je crois qu'il y a un avenir pour la vie consacrée. Je ne sais pas sous quelle forme. Donc, ça nous demande de tenir bon dans l'espérance, dans la patience, en prenant grand soin de cette vie qui demeure et aussi de celle qui bourgeonne. Pour le moment, on se réduit de plus en plus en nombre, un petit peu comme Noé qui se ramassait avec seulement quelques représentants de chaque espèce. Eh bien, c'est un petit peu ce qui va rester là, de chacune de nos congrégations. Mais on peut croire, on peut espérer qu'il va y avoir un après-déluge. On essaie d'avoir ce regard long pour demeurer dans l'espérance. Moi, j'admire les religieux et les religieuses qui sont héroïques, qui tiennent bon, qui essayent d'être fidèles à leur charisme, à leur vocation dans ce contexte plus difficile.
L'année prochaine, vous allez fêter les 60 ans de la Conférence des religieux canadiens. Sur quel thème?
Ça va être au-delà des frontières. Au-delà des frontières, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder la diversité qui jaillit de plus en plus dans notre conférence religieuse. Et nous avons aussi à être témoins dans un monde de plus en plus pluraliste. Alors, c'est vraiment d'apprendre à aller au-delà des frontières, à ne pas s'enfermer, à regarder plus largement, à ouvrir nos horizons et à voir comment nous pouvons être témoins, comment nous pouvons être signes du royaume, signes de l'Évangile dans ce monde diversifié et parfois, il faut le dire, même dans ce monde qui est parfois éclaté.
Les premiers religieux qui étaient au Canada venaient d'autre part. Ils étaient déjà missionnaires dans l'âme.
Exactement.
Est-ce que finalement, l'enjeu, la perspective pour les religieux du Canada n'est pas de redevenir missionnaire pour repartir?
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison parce que notre Église a été fondée par des missionnaires. Plusieurs de ceux, de celles qui venaient au départ, avaient le désir missionnaire, entre autres, auprès de ceux qu'on appelle les Premières Nations, ceux qu'on appelle aussi les Amérindiens par chez nous. Donc, dès le départ, notre Église s'est voulue missionnaire. Mais au fil des siècles, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, qu'on a un petit peu oublié. Mais nous avons toujours eu un grand nombre de missionnaires à l'étranger. Le Québec a envoyé énormément de missionnaires un peu partout à travers le monde. Donc, nous avons à réapprendre à être missionnaires et à l'être chez nous. Mais aussi, peut-être à apprendre à accepter d'être terre de mission. Apprendre aussi à se laisser réévangéliser, à se laisser aider par ceux qui pourraient venir d'ailleurs.
Est-ce que la place de la femme et aussi de la femme religieuse au sein d'un grand pays comme le Canada est spécifique?
Tout d'abord par le fait que notre conférence a été mixte dès le départ. Il y a 60 ans, il y avait quand même quelque chose de particulier là-dedans, parce que dans plusieurs pays, ce sont des conférences séparées. Ça dit déjà quelque chose de l'ouverture à la place de la femme. Dans notre conférence, bien, il y a une alternance. Présentement, c'est un homme qui est président, mais juste avant moi, c'était une femme. Et certainement que juste après moi, ce sera une femme à nouveau. Nous essayons d'alterner de cette façon-là. Les femmes sont très engagées dans l'Église au Canada. Beaucoup de nos sœurs sont engagées dans un travail social, je dirais, de pointe. Et il y a un grand souci de la femme. Par exemple, beaucoup de nos sœurs travaillent contre le trafic humain. Au Canada, nous avons une organisation qui s'appelle CATI, qui est une coalition là, contre le trafic humain au niveau international. Donc,
Ce sont des religieuses qui s'en occupent?
Oui, tout à fait. Alors, elles ont quelque chose de tout à fait prophétique dans ce sens-là, dans notre société. Je dirais que les femmes nous tirent même en avant la conférence religieuse canadienne. Elles ont un apport extrêmement important.
Quand vous parlez ainsi des religieuses canadiennes, on a l'impression qu'elles sortent, qu'elles vont au-delà.
Oui, tout à fait. Et dans ce sens-là, elles sont vraiment prophétiques et j'ai envie de dire qu'elles le font même plus que les hommes parce que plusieurs de nos religieux sont des prêtres, alors ils vont travailler dans les paroisses, dans des lieux peut-être un petit peu plus traditionnels, alors que les femmes ouvrent des nouveaux chantiers dans divers domaines de la pastorale sociale, que ce soit, comme je le dis, avec la traite contre les femmes, avec auprès des femmes battues pour leur venir en aide, auprès de diverses formes de marginaux, des itinérants, des sans-domicile fixe. Et elles ouvrent vraiment, il y a comme une pointe de l'Évangile. Elles font avancer l'Évangile à travers une pastorale sociale. Elles imprègnent la société des valeurs de l'Évangile à beaucoup de niveaux.
Le bibliste et président de la conférence religieuse canadienne Michel Proulx était interrogé par Sœur Catherine Aubin, c'était l'invité de ce dimanche. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle émission.